C'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Hello. Il est 9h40 sur France Inter, très heureuse de retrouver l'instant M.
Vous êtes en direct, allez-y.
1947, vote à l'ONU, création de l'État d'Israël. Le film dont on vous parle ce matin est en deux volets et il raconte l'utopie des pionniers, conspués par les rabbins, la genèse d'une nation, le sang qui coula dès sa naissance, l'errance des juifs persécutés, chassés, auxquels tous les pays fermèrent leurs portes. L'escalade de la rancœur, de la peur, de la haine, les erreurs effroyables commises tant par les juifs que par les arabes, 2 heures d'archives précieuses et de témoignages très rare.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Blanche Finger, William Carrel, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Soyez les bienvenus.
Bonjour.
Vous êtes mari et femme, vous êtes auteur et réalisateur de ces deux volets, Une terre deux fois promise, Israël-Palestine, qui sera diffusée demain soir sur Arte. Là, je vois Blanche Finger qui trépigne. Il y a un troisième film.
Il y a un troisième film le lendemain. C'est un état des lieux d'Israël aujourd'hui à travers ses écrivains.
Voilà. Et puis c'est une fois que vous avez terminé ce film-là que vous vous êtes dit, ben en fait, il faut la raconter, l'histoire d'Israël. Et ça a donné ces deux volets. Alors, ces deux volets qui sont racontés dans l'ordre chronologique, je le précise parce que nous avons peu de temps ce matin et nous allons, comment dire, prendre parfois les choses dans le désordre.
على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين فلسطين.
William Carrel, Blanche Finger, quand on arrive au terme de cette effroyable machine que vous décortiquez, et vous en décortiquez chaque rouage, on comprend que d'aucuns se battent encore pour la paix, mais elle paraît parfois plus inenvisageable que jamais. On peut dire un mot avant de plonger dans ce film, ce mot pour dire que vous avez vécu et l'un et l'autre en Israël, William Carrel.
Oui, pendant 10 ans, la plupart du temps dans un kibboutz.
Oui.
J'ai même fait mon service militaire, donc c'est pour ça que c'est une histoire. Même si depuis 25 ans, on ne traite que ce sujet, de la rave du Veldiv au album d'Auschwitz jusqu'au dernier, celui-ci particulièrement nous concernait, parce qu'on l'a vécu.
Blanche Finger, c'est là que vous vous êtes rencontrés tous les deux en
absolument,
Israël. Oui,
absolument. Je suis arrivée très jeune, j'avais 16 ans dans un kibboutz.
Oui,
j'ai
vous
quitté Genève.
Genève.
Voilà. Et en fait, je pense que mes parents m'ont laissé par terre en se disant que si j'allais là-bas, je rencontrerais sûrement un juif et que c'était possible.
29 novembre 1947, le vote à l'ONU.
You all know
how to vote. Those who are in favor will say yes, those who are against will say no. And the abstainers, always they know what to say.
Soviet Union, yes. United Kingdom, abstain. France, yes.
The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions.
Voilà ce que dit le président de séance. Vous savez tous comment voter, ceux qui sont pour dire oui, ceux qui sont pour dire non, et les abstentionnistes qui savent toujours quoi dire. Évidemment, ça déclenche les rires. On entend les votes et on entend que finalement, la France a voté. C'est très important parce que la France était sur le point de s'abstenir, William Carrel.
Oui, absolument. Il manquait une voix. C'est Lomblum qui a convaincu le gouvernement français qui comptait s'abstenir de donner cette voix.
Parce que l'agence juive s'était vraiment démenée et en avait fait appel au président du Front Populaire.
Absolument. Mais de toute façon, ça devait passer. Elias Sambard, il y a un moment dans le film, la direction palestinienne a été aveugle de ne pas comprendre qu'après ce qui s'était passé, les gens allaient forcément donner un pays aux Juifs.
Alors Elias Sambard, il est palestinien, il est aujourd'hui ambassadeur et diplomate, et il fait partie de ceux qui continuent de se battre et qui croient encore que la paix est possible. Il faut qu'on remonte cette histoire. Une utopie, d'abord, celle d'un journaliste, Théodore Herzl, qui publie l'État juif, en fait, à la fin du XIXe siècle, après l'affaire Dreyfus. 1897, premier congrès du peuple juif. Blanche Finger, c'est très intéressant parce que c'est là ce que vous racontez, les rabbins de tous les courants s'y opposent. La diaspora est une punition divine. Et d'ailleurs, pour Herzl, il faut séparer la religion de l'État. Finalement, la création d'Israël, ce serait une forme d'émancipation par rapport à la religion.
Complètement. Pour Herzl, qui avait publié un livre qui s'appelle Le Nouveau et l'Ancien Monde, un roman d'émancipation, où il disait « Il faut qu'on enlève aux Juifs le carré jaune de la persécution ». Il faisait évidemment référence à la rouelle du Moyen-Âge. Et il imaginait un pays où les Juifs vivraient en harmonie avec les autochtones. Ce serait un pays où il y aurait de l'art, des écrivains, des scientifiques. Ce serait l'harmonie extrême.
Et donc, en aucun cas, finalement, un projet religieux. En aucun cas, le retour du peuple juif sur des terres bibliques.
Je crois que c'est pas aussi simple. C'est-à-dire, peut-être que beaucoup de sionistes ont voulu retourner dans les terres où il y a eu la naissance du peuple juif, mais en retirant tout ce qui était religieux. Herzl disait les rabbins dans les synagogues et surtout pas dans le gouvernement, et bon, on voit la dérive actuelle.
Alors on voit la dérive, justement, ça renvoie au dernier quart du deuxième film, après la guerre des six jours, la conquête de Jérusalem réunifiée. Je vous fais entendre cette archive qui est rare, hein, c'est la prise de Jérusalem, la prise de la porte au lion. Une conquête romantique, une conquête qui n'était pas nécessaire d'un point de vue militaire, William Carrel.
Oui. C'est Elie Barnavi qui dit c'était une conquête romantique, et le romantisme en politique, c'est désastreux.
C'est désastreux.
C'est lui qui conclut le film. Du film se détache, des deux films même, une vision assez noire, j'allais dire presque désespérée. Lui dit à la fin, on parle souvent des guerres israélo-arabes. En fin de compte, c'est une longue guerre qui a commencé il y a un siècle, qui ne s'est jamais terminée. Il y a eu de temps en temps quelques petites pauses, et qui n'est pas prête de se terminer.
Et pour rebondir sur ce que disait Blanche, justement, à partir du moment où on réunit Jérusalem, alors là, vous racontez vraiment ce basculement dans un sionisme messianique. On parle même, vos témoins racontent une orgie nationaliste et religieuse dans laquelle ne se seraient jamais reconnus les premiers colons.
Absolument. Quand on avait parlé du film avec Arte, on avait dit que la deuxième partie allait de 48 jusqu'à 67, la fin de la guerre des six jours. On a demandé d'aller jusqu'en 68 parce que les premiers colons s'installent en Cisjordanie. Et à ce moment-là, c'est le basculement. Un témoin, Guidon Levy, dit dans le film, Israël avant la première colonie et après, c'est fini, ce sont deux pays différents.
Au départ, la Palestine est donc sous mandat britannique, et finalement, les Britanniques offrent aux Juifs ce pays qui ne leur appartient pas. C'est ce que vous racontez dans le film. Et très rapidement, les heurts, les tensions, les émeutes, même des massacres. Il y a cette grève générale des Arabes, cette révolte de 1936 qui est réprimée dans le sang. Blanche Finger et les Britanniques qui divisent pour se poser en arbitre.
Oui, ils ont toujours eu une position assez ambiguë. En fin de compte, je pense qu'ils imaginaient que les Juifs aient un lieu pour s'installer. Mais je pense qu'ils ne voyaient absolument pas l'idée d'un pays. Et je pense que de toute façon, personne n'avait vraiment en tête ce qui allait en advenir, sauf Ben-Gourion.
Ben-Gourion, hein, qui quelques années plus tard proclamera la
naissance
de l'État d'Israël.
Exactement, mais lui, dès son arrivée, en fin de compte, il a l'idée qu'il faut un État. Et en fait, ce qui est fou, c'est que, en même temps, l'agence juive, qui elle, entre guillemets, dirige le pays, dirige les écoles, les hôpitaux, tout est prêt, en fin de compte, pour la future création. C'est-à-dire, on n'attend pas la création de l'État pour mettre en mouvement les structures. Toutes les structures existent déjà.
Existent. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que juste avant la guerre, on est dans cette période de grandes tensions, d'émeutes interraciales. Il faut bien comprendre aussi une histoire absolument incroyable que vous racontez, William Carrel. Le Haut Comité arabe se crée justement au début des années 30. C'est l'histoire du grand moufti de Jérusalem qui déteste les Anglais. Écoutez, comme l'un de vos témoins raconte cet épisode qui est très peu connu.
Le moufti s'est rendu à Berlin et a tenté de créer des sections SS, de SS musulmans. Il voulait former une unité conjointe avec l'armée allemande pour venir en Palestine, combattre et tuer des juifs. Le Mufti n'avait pas vraiment d'importance en Allemagne. Hitler se fichait pas mal du Mufti. Mais il s'est lié avec Eichmann. Ils avaient un but commun, se débarrasser des Juifs.
Là, il y a quelque chose qui fait écho à l'un de vos précédents films, qui s'appelait une série en 8 volets, L'extermination des Juifs d'Europe. L'un des épisodes qui m'a le plus marqué, c'est quand vous racontez que les Juifs menacés dans toute l'Europe vont se voir fermer les frontières de tous les pays où ils auraient pu se réfugier. Parce que c'est exactement ce qui se passe. L'antisémitisme monte, les persécutions montent, les Anglais ferment l'État, les frontières palestiniennes, mais les Américains aussi, les Canadiens aussi, les Juifs ne savent pas où fuir.
Mais oui, y compris la conférence d'Évian, où pas un pays n'accepte de recevoir des Juifs, y compris des pays complètement déserts, comme l'Australie ou le Canada. Et ça aussi, ça fait partie de ce qui va pousser le futur pays Israël à devenir intransigeant avec cette peur de ne pas voir où aller.
Blanche Finger, il faut raconter aussi que c'est la même chose après la guerre.
C'est ce qui est le plus terrible.
Le plus terrible.
Voilà. Les survivants, il y en a à peu près 2000 qui seront assassinés en revenant en Pologne et en voulant retrouver leur maison. Elles sont déjà habitées.
Vous avez même un témoin qui dit « la guerre est terminée, la Shoah continue ».
Exactement. Donc il y a ce pogrom de Kielce, un des pogroms. Et en fait, lorsque les Juifs essayent de bouger en Europe, on les enferme dans des camps, des camps de personnes déplacées, qui sont en Allemagne, évidemment, et où ils sont extrêmement maltraités. Et du reste, un des émissaires de Truman dira « on traite les Juifs aussi mal que les nazis, sauf qu'on ne les assassine pas ».
Voilà, on ne les extermine pas, nous, mais c'est la seule différence avec les camps nazis.
Après, quand ils essayent d'arriver en Israël, ils sont arrêtés par les Anglais, qui les mettent dans des bateaux-cages et qui les transportent à Chypre. Et à Chypre aussi. Juste à côté, il y a un camp de prisonniers allemands qui sont extrêmement bien traités. C'est des soldats. Et au milieu, il y a les Juifs qui sont toujours traités d'une manière aussi lamentable.
Je me permets encore une fois un petit saut dans le temps. Mais là aussi, quand on va vers la fin du film, finalement, aux Palestiniens chassés de leurs terres, les pays arabes ont-ils ouvert leurs frontières ?
Ils ne les ont pas intégrés. Ils les ont mis dans des camps de réfugiés. Les Palestiniens sont les seuls dont le statut de réfugié se transmet d'une génération à l'autre.
Ils leur ont refusé toute forme d'intégration, pour des raisons qui leur sont propres, mais aussi pour garder éternellement vivace la question palestinienne.
William Carrel, c'est quand même une histoire qui se répète en miroir. La fin du film, oui, c'est précisément un Palestinien de Jérusalem-Est, oui, qui dit « je ne suis personne,
je suis rien,
je suis rien, je n'ai, oui, pas de nationalité, je ne, oui, suis nulle part et je ne suis personne ». C'est exactement ce que vous racontez des, oui, Juifs d'Europe face à la persécution et au moment où on les a chassés.
Exactement, c'est le parallèle entre les deux, ouais, cette obsession à ne pas vouloir disparaître, on reconnaît exactement et chez l'un et chez l'autre. Et ce qui est fabuleux, c'est enfin extraordinaire, c'est l'acharnement des Palestiniens aujourd'hui à ne pas vouloir disparaître. Vous avez vu ce qui s'est passé à Gaza et tout,
ouais,
ça.
À ne pas vouloir disparaître.
Ils sont quand même enfermés depuis 50 ans. Et ils continuent.
Et justement, il faut revenir à ce dont vous parliez, c'est-à-dire la guerre des 6 jours, qui est vraiment un point de bascule dans le film et un tournant dans l'histoire d'Israël. Énormément de Palestiniens sont en fuite, qui ne retrouveront jamais leur terre. Et là, les chiffres commencent à être très très conséquents. Vous parlez de 700 000 Palestiniens. Et j'aimerais que vous essayiez de nous expliquer cette lecture que vous donnez de la guerre des 6 jours. Vous étiez en Israël au moment de la guerre des 6 jours, Blanche ?
Absolument.
C'est pas exactement celle qu'on trouve dans les manuels d'histoire.
J'étais dans un kibboutz en face de Gaza. Et si vous voulez, tout le monde parle de ces 3 semaines de tension. C'est-à-dire, tout le monde avait cette impression qu'on allait disparaître, vraiment.
Mais c'est très intéressant parce que les témoins le racontent dans le film, l'Holocauste allait se reproduire.
Absolument.
La menace arabe était tellement vive, l'angoisse était tellement forte. Et il y a même un de vos témoins qui dit, vous savez comment on appelait les frontières de notre pays ? On les appelait les frontières d'Auschwitz. Oui,
absolument. Et en fin de compte, c'est vrai qu'on a un souvenir de ce matin où à 5 heures, on a vu passer des avions en rase-motte qui partait en Égypte. Très vite, on nous a dit, voilà, l'aviation égyptienne a été détruite. peut rien se passer. Enfin, la guerre a continué quand même, mais si vous voulez, il y avait une espèce de soulagement infini.
William Carroll.
Oui, je parlais tout à l'heure de l'importance de la Shoah dans toute cette histoire qui commence en 47 au vote jusqu'à aujourd'hui. C'est à cause d'erreurs, j'ai pas trouvé un autre mot, comme celle-ci. C'est la radio du Caire qui diffusait cette chanson qui s'appelle Les Gorges un Juif, les Juifs pendus en effigie dans les rues. Chaque fois, l'angoisse numéro un d'Israël, et ils commettent pas mal d'erreurs à cause de ça, c'est cette peur de disparaître, ouais. Et elle n'est pas inventée.
On va l'écouter, cet appel au meurtre des Juifs diffusé sur la radio du Caire. Il faut bien savoir que Blanche Finger vient de nous raconter cette angoisse qui a pris le peuple juif en Israël. De l'autre côté, l'escalade était tout aussi palpable.
Les radios du Caire diffusent une chanson qui est un véritable appel à tuer tous les Israéliens. Au meurtre de Juifs.
Égorge, égorge, égorge.
C'est pour ça que je vous disais que c'est, de leur part, c'est une erreur monstrueuse. Il y a eu le responsable de l'OLP à l'époque, qui était Ahmed Choukaïri, qui passait à la radio tous les jours en disant « on les jettera à la mer jusqu'au dernier ». Dans le film d'après sur les écrivains, Grossman dit avec beaucoup d'humour, fort d'entendre, il a demandé à ses parents... Il ne savait pas nager, de lui donner des cours de natation
de pour ce qu'il,
dès qu'on le jette à la mer, il puisse essayer de s'en sortir.
Mais en même temps, et l'un et l'autre, vous avez construit un film dans lequel on reconnaît que cette angoisse a été très instrumentalisée pour justifier ce qui s'est passé derrière, c'est-à-dire conquête, annexion, colonisation, William Carrel.
Oui, pas de la part des témoins qui sont sincères quand ils parlent de leur
absolument.
Peur. Mais c'est vrai que le gouvernement a beaucoup joué sur cette peur. Il continue à jouer aujourd'hui avec cette menace iranienne sur les armes nucléaires. Ils s'en servent souvent. Et c'est vrai que sur le déclenchement de la guerre des six jours, ils s'en sont servis, les témoins le disent. En tout cas, Nourit Peled, qui est témoin dans le film, dit que son père, qui commandait les forces israéliennes, lui a dit dès le premier jour que c'était un bluff énorme. Un peu plus tard, il y a Rabin qui reconnaît exactement qu'il n'y a jamais eu le moindre danger et qu'ils ont joué là-dessus. Begin, beaucoup plus tard. Donc c'est vrai que ça, c'est triste à entendre et désespérant, mais ils ont joué là-dessus. Il y a eu 100 films comme le nôtre, mais sur les points où vous voulez insister, c'est sur celui-ci, sur le bluff de la guerre des six jours, sur les débuts aussi de nous dire que quand il y a eu le congrès de Herzl, où il parle de nous allons avoir une terre à nous, il y a un des principaux délégués qui se lève et qui dit « Excusez-moi, mais vous faites une erreur, il y a déjà quelqu'un sur place ». Un deuxième dit « Mais quel intérêt d'aller créer un autre ghetto là-bas ». Donc c'est plusieurs points qu'on voulait. Le film était très compliqué pour trouver un équilibre.
Bien sûr. C'est 2 fois 52 minutes. C'est toute cette histoire racontée en 2 fois 52 minutes.
Mais oui, avec le dernier volet, c'est ça, ces écrivains. On leur a demandé une simple question. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui du rêve de Herzl de créer un pays? Est-ce que vous avez l'impression que la littérature peut modifier ou changer le cours de l'histoire? Et leur réponse est non.
Merci beaucoup à tous les deux.
Merci à vous.
Blanche Finger, merci William Carrel. Donc c'est à voir demain soir sur Arte. Voilà, c'est la fin de l'émission. Bonjour Elie Rébéi.
Bonjour Sandra Villard, mais vous avez une mine, mais franchement, c'est extraordinaire. Enfin,
c'est gentil.
Je veux la même recette. Hein,
bon, alors la recette, justement, parlons-en. Le sucre. Alice s'acharne contre le sucre.
Dernier volet de notre série consacrée au sucre. On s'intéresse à ses effets sur notre santé, les effets néfastes, notamment le diabète, la NASH, la maladie du soda, l'obésité, les troubles de l'humeur. Et on attend toutes vos questions au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Ah oui, votre foie devient gras comme les oies, vous savez, quand on les gave, c'est
exactement
pareil.
Vous me raconterez s'il y a une maladie de la religieuse au chocolat aussi. Hein. Allez, à tout à l'heure.